joie d'être ce matin. Hein. On a senti la joie du Seigneur, bien que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve pendant le confinement. Hein. Ça fait déjà quelques fois, mais ce matin particulièrement, c'est une joie de se retrouver un peu plus nombreux des différents coins du réseau aussi. Bonne louange, merci au Seigneur, ce bon temps ensemble. Gloire à Dieu, et c'est super de se mettre aussi ensemble après la louange, après nos cœurs soient un peu malaxés comme ça. C'est bien pour entendre la prédication du Seigneur, pas celle de Florian, mais celle du Seigneur, ce qu'il veut dire à nos vies, à nos cœurs, à notre église, à notre réseau. Et voilà, je vous invite à sortir vos cahiers d'école du dimanche, et prendre quelques notes. C'était fin juin ou début juillet. J'ai commencé un thème qui me semble le thème clé pour cette période de virus spécial comme dans notre temps, sur l'arrogance. Ça a été bien sûr initié pour moi prophétiquement par ce que Samuel Peter Schmidt a vécu dans sa vie et a dit. Et pour moi, c'était vraiment, pas souvent que je dis ça, mais vraiment un prophète qui parlait à l'Église de Jésus-Christ en France aujourd'hui avec ses paroles. Et voilà, j'ai compris que ce n'était pas ma proclamation, bien qu'elle soit importante, qui créait la chose, mais c'est tout d'un coup la souveraineté de Dieu qui venait dans ma vie, qui me rencontrait. Et là, ça lui a vraiment appris une saine humilité. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une mollesse, ce n'est pas quelque chose comme ça où on s'efface. C'est vraiment, on est pleinement nous-mêmes, pleinement présents devant Dieu et avec Dieu, mais dans une autre relation où l'arrogance, où l'orgueil est brisé. Et donc, j'ai trois prédications là-dessus que je vais faire. Donc, on en a déjà une que je vais résumer brièvement. Celle de ce matin et une prochainement. Il me semble vraiment que le Seigneur m'a travaillé là-dessus. Et je vous invite à être travaillé en tant que personne et en tant qu'église, en tant que réseau, qu'on soit travaillé par rapport à ce thème de l'arrogance. Ce n'est pas une prédication classique où j'ai trois versets que je commente, etc. Donc, ça veut dire un effort supplémentaire pour vous. C'est d'entendre au travers de ça. Ce matin, il y aura beaucoup de textes bibliques tirés de toute la Bible sur cette arrogance. C'est un peu la foi du milieu. Là, j'ai introduit. La prochaine fois, je conclurai. C'est un peu plus facile. Ce matin, c'est difficile parce que je vais faire un panorama biblique sur les thèmes de l'arrogance. Donc, il y aura beaucoup de choses. Mais paniquez pas, vous concentrez pas sur chaque chose, mais essayez d'écouter aussi une oreille prophétique, un peu une oreille attentive. Qu'est-ce que Dieu vous dit au travers de tout ça, d'être pleinement présent, je ne vous dis pas d'être ailleurs, n'écouter que d'une oreille, non, être pleinement présent, mais il n'y a pas besoin de s'accrocher à chaque mot, chaque chose que je vais dire, essayez de repérer tout un coup une parole, un verset qui vous parle personnellement, ou qui parle pour votre famille, ou qui parle pour notre église, ou pour votre groupe de maison, etc., pour grandir. Comme je disais, donc la première fois c'était l'introduction avec le cantique d'Anne et de Marie, je résumerai tout à l'heure, la deuxième fois ce matin, ça sera sur un panorama biblique, pour montrer comment Dieu haït, mais vraiment est, pas comme il faut le dire, qu'on entend, mais l'orgueil. C'est quelque chose que Dieu ne supporte pas, c'est cette prétention de sa créature devant lui. Il n'aime pas ça, il déteste ça. Et on verra comment c'est un trait de l'ennemi. Et puis, la troisième fois, eh bien, nous parlerons des questions qui peuvent nous troubler autour de cela, l'arrogance des méchants dans ce monde qui nous interpelle, troubles, leur succès, etc. Il y a tout un tas de textes qui parlent de ça, donc ça sera la prochaine fois. Rapidement, donc, pour nous rafraîchir, et ceux qui n'étaient pas là, dans la première introduction au thème de l'arrogance qu'on a vu, je citais Philippe de Villiers, le Vendée Globe, qui disait que contrairement au Titanic, qui avait eu l'arrogance de dire on n'a pas besoin de faire de caissons étanches parce qu'on va résister à tout, pour le Vendée Globe, ils ont demandé au bateau d'avoir 7 cloisons étanches. Ça, c'est voilà, la saine humilité, c'est-à-dire on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, on n'est encore pas sûr, vraiment on veut pas être arrogant. Et puis aussi, je citais ce sondage aux États-Unis qui aurait pu paraître une farce, mais qui n'en était pas une, malheureusement, c'est où ils ont testé les opinions favorables sur Dieu. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu agit vraiment pour cette terre? Est-ce que sa création est bonne? D'interroger les gens, voilà l'arrogance humaine de juger le Créateur. Et puis nous avions vu donc les cantiques de Anne, repris par Marie, la maman de Jésus, la maman de Samuel, où ces cantiques magnifiques que je vous invitais à relire, où elle crie, mais ne parlez plus avec tant de hauteur, ne parlez plus avec tant d'arrogance. Et Marie qui répond à ce cantique de Anne et qui dit, il a renversé les orgueilleux, il a élevé les humbles. Tellement beau, tellement beau. Il a renvoyé les riches les mains vides, ceux qui se croient comme ça, possédant même la théologie. Il les a renvoyés les mains vides. Et il a rencontré, il a élevé celui qui était sur le fumier. Il le retire, l'indigent, le pauvre, le petit. Extraordinaire. Et je suis tellement heureux. Ce matin, au milieu de nous, je ne pensais pas le faire, mais voilà, je suis content. Marilus, l'honoré parmi nous. Voilà quelqu'un qui est petit, qui est humble, qui est sous tutelle et qui a cheminé avec le Seigneur. Qui est régulière dans son culte à l'once et puis à la cellule, qui amène d'autres gens au Seigneur, qui témoigne autour d'elle. Voilà. Voilà ce que le Seigneur fait dans des vies, que des gens qui pourraient être un petit peu de côté, finalement, trouvent une identité en Christ. Et puis, ce n'est pas toujours facile, hein, Marie-Luce, mais elle persévère, elle s'accroche. Et c'est tellement beau de voir ce que Dieu fait dans la vie de gens ainsi. Voilà. Alors, quelques panoramas bibliques pour dire comment, essayer de comprendre vraiment ce cœur de Dieu qui déteste vraiment, qui n'aime pas vraiment cette arrogance et combien elle est profondément inscrite dans le cœur naturel, charnel de l'homme depuis la chute et en nous aussi. Par exemple, dans 2 Rois, pour ceux qui prennent des notes, je dis 2 Rois 19, 27 à 29, avec le roi d'Assyrie, voici ce que Dieu dit. « Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi aussi, parce que tu es furieux contre moi. Mais parce que tu as de l'arrogance qui est montée jusqu'à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines, mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. La troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous mangerez du fruit, parce qu'il y aura encore de l'espérance. Après, il parle au peuple, etc. » Mais voilà, c'est au cœur de ça, de son message, où il donne l'espérance pour le peuple. Il dit pour le chef, il dit par contre, parce que toi, tu as eu de l'arrogance. Tu as cru que c'était par ta force que tu y es arrivé. Eh bien, je vais mettre une boucle à tes narines, je vais mettre un mors à tes lèvres et je vais te renvoyer d'où tu viens. Voilà le cœur de Dieu. Dieu n'aime pas celui qui croit qu'il est arrivé à quelque chose. Psaume 10, versets 2 à 6. Le méchant dans son orgueil se glorifie. Il outrage, il méprise l'Éternel et il dit avec arrogance, « Il n'y a point de Dieu ». Voilà toutes ses pensées, il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, il n'y a point de Dieu ». Ça, c'est vraiment le discours humaniste, arrogant de notre société qui se permet de juger « il n'y a pas de Dieu ». Voilà, j'ai constaté, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de comment est-ce qu'on dit, je cherche le mot cette révélation, cette transcendance, voilà le mot que je cherchais, ce refus de la transcendance qui est les lois au-dessus de nous. Ce n'est pas nous humains qui pouvons définir ce qui est bon et ce qui est juste, et la loi de la République, etc. Mais il y a une transcendance, il y a une vérité qui existe, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. On continue ce petit parcours où dans le psaume 31, verset 24, il est dit « Aimez le Seigneur, vous tous, ses fidèles, car le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. Mais aux arrogants, il leur rend largement la monnaie de leurs pièces. » J'aime ça en français courant. Il aime les fidèles. C'est pas ceux qui sont au top, c'est pas les super, c'est pas ceux qui n'ont jamais de problème, c'est pas ceux qui n'ont pas de questions théologiques, c'est pas ceux qui ont de la peine dans l'église avec tel ou tel ou tel ou tel. Ça, c'est les fidèles du Seigneur. Nous sommes les fidèles du Seigneur avec nos défauts, avec nos travers, avec nos difficultés en église, avec nos petites querelles, nos caractères normaux. C'est la vie ensemble. Ça, c'est les fidèles du Seigneur. C'est pas un problème. Par contre, aux arrogants, aux ceux qui se croient arrivés, Dieu leur rend largement la monnaie de leurs pièces. Psaume 75, 75, j'ai retrouvé avec des Suisses. Psaume 75, versets 6 à 8. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais c'est Dieu seul qui est juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. On a de la peine des fois avec ces notions, hein, parce que même dans le Nouveau Testament, on voit ces dialogues de Paul avec le vase d'argile ou le vase d'honneur. On a envie de contester pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est pas comme ça, puis celui-là, puis pourquoi celui-là n'est pas guéri, et puis pourquoi cette mère de famille, puis pourquoi moi qui te demande depuis 30 ans, etc. Ceci. Tout ça, c'est de l'arrogance dans nos cœurs, dans mon cœur. C'est comme si on savait mieux que Dieu. Dieu est Dieu, il élève l'un, il abaisse l'autre, il fait tout comme il veut, il est bon, il est juste, on l'a glorifié ce matin, on l'a adoré comme le tout bon, le tout puissant, tout, et bien, vivons-le dans nos vies au quotidien et éloignons de nous l'arrogance qui croit dire à Dieu ce qu'il doit faire, et ce qu'il ferait faux. Psaume 94, 2 à 4, « Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres, juge du monde, oppose-toi aux arrogants. » Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance tous ceux qui font le mal. Proverbes 8, 11 à 14. C'est pour essayer de vous montrer, hein, au travers de tous ces textes, comment c'est vraiment un caractère, un trait, on aimerait connaître le caractère de Dieu. Et bien, un de ses traits de caractère, on dit des fois ce qu'il aime, il est bon, il est ça. Mais aussi ces choses qu'il déteste, c'est une chose qu'il déteste. Donc il faut qu'en nous, on travaille ça, parce qu'on ne veut pas lui faire de la peine, on ne veut pas être à côté de ce qu'il veut pour nous. Donc il y a des gens qui disent, je veux le bien, je veux la patience, Seigneur, donne-moi. Mais aussi, Seigneur, extirpe de moi, même si ça me fait mal, des choses que tu n'aimes pas, qui te font souffrir et que tu détestes. Proverbes 8, 11 à 14, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Si je possède la science de la réflexion, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal et l'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais, le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est en moi. Donc c'est la sagesse qui parle, bien sûr, qui personnifie Dieu. En français courant, ce texte dit « Être soumis au Seigneur, c'est détester le mal ». Pour ma part, je veux donc détester l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions, les paroles trompeuses. Pour ma part, l'engagement du fidèle, je veux détester, je choisis de détester l'orgueil et l'arrogance. Proverbe 14, 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce verset, je vais le relire. Proverbe 14, 16. Ça va être pour moi une consolation pour beaucoup d'entre nous. Proverbe 14, 16. Le sage a de la retenue et il se détourne du mal. L'insensé est arrogant et plein de sécurité. Et j'ai ajouté là avec un petit sourire, un petit smiley qui sourit. Nous, moi, j'hésite souvent. Eh bien, c'est que je suis sage. Vous voyez, les arrogants, et on viendra tout à l'heure entre la différence entre la foi et l'arrogance. C'est proche, il ne faut pas se tromper. La proclamation, l'arrogance, ou la foi dépendante de Dieu, c'est deux choses différentes. Le sage, celui qui est en Dieu, il ne sait pas, il a des retenues, il hésite. Et c'est l'insensé qui est plein de sécurité. Dieu guérit toujours, Dieu est comme ci, Dieu est ça, je sais que Dieu m'a dit. Ça, c'est de l'arrogance. Le sage, il hésite, il ne sait pas, il ne comprend pas, il tâtonne, il a besoin de venir à l'église, il a besoin de ses frères et sœurs, il ne sait pas tout. Il vient, il s'assoit humblement avec sa cellule de prière qui est moyenne, qui a une louange plus ou moins bonne. Et puis, il a de la peine avec tel frère ou telle sœur, mais il persévère, il continue. Et puis, il ne dit pas, je claque la porte de l'église, j'en ai marre, je sais tout. Vous n'avez rien compris, il faut aller voir tel séminaire, tel ministère, non? Nous, nous ne sommes pas de ceux qui sont pleins de sécurité et arrogants. Nous sommes questionnants, nous sommes hésitants, nous avons de la retenue, parce que nous voulons être humbles, dépendants du Seigneur, des frères et sœurs, dans une saine soumission mutuelle. On a besoin du corps. On a besoin de venir aux rencontres d'église. On ne dit pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie, c'est les autres, celui-là, il a mal parlé. Mais qui es-tu pour dire qu'il a mal parlé? Écoute une partie, retiens pas tout, examine toute chose, retiens ce qui est bon, puis ça suffit déjà. C'est comme l'histoire des versets de la Bible. Ce que tu ne comprends pas dans la Bible, ce n'est pas un problème. C'est ce que tu comprends bien qui devrait être un problème pour toi, te troubler, te déranger, te façonner. Laissons tomber ce qu'on ne comprend pas. Une prédication qui est trop longue, qui est trop si, qui n'est pas bien, qui ne vous a pas... Cherchez en les paroles, ne serait-ce que les versets bibliques qu'il a cités, doivent vous suffire pour humblement les prendre et dire « Seigneur m'a parlé ce matin par cette prédication ». Vous voyez ce que je veux dire, hein? Qu'on soit vraiment dans nos vies humbles, attentifs, à écouter, à recevoir. Dieu nous parle même par une ânesse, par une fleur, par un rocher, par une difficulté, par un prédicateur incapable, par un mauvais livre, toutes sortes de choses. Si je suis dans l'humilité, la dépendance de Dieu, il va nous former. Même les choses les plus contraires, les plus mauvaises peuvent nous former. Ayons cette foi en Dieu. Par exemple, si nos enfants sont à l'école, au lieu de toujours se battre que c'est mauvais, que c'est pas bon, que j'ai entendu quelque chose de mauvais, prenez ça comme un défi, une opportunité de reparler avec eux de la chose. Et puis on les couvre de la grâce de Dieu. Hein? Chaque circonstance, essayez de se dire, Seigneur, tu me formes. Si on proclame qu'il est souverain, alors arrêtons de dire, Macron fait tout le contraire, si Dieu est souverain. Si je vais dans l'école et puis que mon prof n'est pas tout à fait bien avec mes élèves, ou bien qu'il y a un élève méchant, bien sûr c'est dur, mais j'ai parlé avec mon enfant, je vais pouvoir utiliser cette expérience pour la gloire de Dieu, pour sa grâce, parce que je vais être façonné par le Seigneur. Essayez d'être un peu détendu. Alors c'est dur des fois quand il y a la souffrance, hein, quand il y a la souffrance physique, d'être détendu, puis juste d'accepter, hein, c'est difficile. Mais au moins les autres circonstances où il n'y a pas une souffrance physique, au moins essayez de se dire, Seigneur, je veux me laisser modeler par toi. Je ne vais pas être crispé dans ce qui m'arrive, dans ce qui... Mon église n'est pas tout à fait comme je voudrais, ou on n'est pas ta photo. Le Seigneur va nous former. Le sage, elle l'a retenu, il se détourne du mal, mais il n'est pas un arrogant plein de sécurité. Proverbe 16, 18 à 20. L'arrogance précède la ruine. Ça nous montre le chemin de l'arrogance. L'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Peut-être des fois, on aimerait avoir un peu de butin, on aimerait avoir un peu de succès. Mais mieux vaut être humble avec les humbles qui questionnent, Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas le réveil? Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à témoigner? Ben oui, amenons ces questions devant le Seigneur humblement. Au lieu de chercher vite des trucs, des solutions, dire c'est parce qu'il n'y avait pas la foi, c'est parce qu'on n'avait pas l'option, etc. Non, Seigneur, je suis là devant toi. Mieux que le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit, ça veut dire qu'il travaille, qu'il hésite, c'est pas celui qui tout est donné. Non, il réfléchit, il travaille des choses, il trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Nous confier réellement en Dieu. Enfin, Ésaïe 10, pour terminer un petit peu ce panorama biblique, Ésaïe 10, 12 à 13. Je punirai donc le roi d'Assyrie, hein, celui qu'on va renvoyer comme ça avec la boucle dans ses narines, pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards humains, car au fond, il a dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse et je suis intelligent. Et quand Dieu résume, au fond, pourquoi il en veut comme ça aux orgueilleux. Il dit, au fond, parce qu'il a dit dans son cœur, c'est ma force, c'est ma main, ou c'est ma prière, ou c'est ma puissance, ou c'est mon onction qui a pu faire quelque chose. Et je suis intelligent. J'ai compris. Et ça, c'est vraiment, ça rejoint vraiment le message de Samuel Peter Schmidt quand il a dit, j'ai compris. Que ce que j'avais compris jusqu'à ce jour, que je croyais, que ma proclamation, que toutes ces choses-là, etc. Ben quand je souffre, quand je suis au fond du lit, quand j'appelle, quand il n'y a rien, c'est juste la souveraineté de Dieu, c'est juste tout à coup lui qui fait le chemin vers moi. Voilà pour ce panorama. On voit aussi, on y reviendra plus tard dans la troisième partie, que dans les visions d'Apocalypse, ou les visions de Daniel, les bêtes terribles de l'Apocalypse ou de les visions de Daniel, qui sont arrogantes, qui persécutent l'Église, qui persécutent le peuple de Dieu et qui veut, s'il n'y avait pas une intervention divine, jusqu'à le détruire, sont des bêtes et elles sont décrites comme ayant dans leur bouche l'arrogance. Donc ces manifestations d'Apocalypse, de fin du monde, de Daniel, etc., démoniaques, elles ont comme caractéristique une bouche d'arrogance. C'est ça qui veut détruire l'Église. Et ça m'interroge, et ça m'interpelle, comment nous prémunir et comment réfléchir non seulement sur notre propre, bien sûr dans notre cœur, on doit veiller, mais sur ce qui est en train de se jouer Voilà, où Dieu veut, par l'arrogance de ceux qui savent alors qu'ils ne savent pas, sans Dieu. C'est ça qui veut détruire le monde chrétien, qui veut détruire les enfants de Dieu, qui voudrait détruire l'Église de Jésus-Christ. C'est ça le travail de la bête de l'Apocalypse. Le lien entre foi et arrogance, un point délicat, cette proximité. Tout ce que je dis jusqu'à maintenant pourrait s'en pénétrer. Est-ce que ça voudrait dire que nous devons donc être sans orgueil, sans arrogance, donc effacés un peu comme l'escargot ou la limace devant le Seigneur qui sait tout, qui fait tout, que j'ai rien à faire, rien à proclamer, et presque être annihilé devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous savez, comme quand les évêques sont consacrés à la prostration, c'est-à-dire qu'ils doivent montrer que vraiment ils sont étalés tout leur long dans la cathédrale avant qu'on leur donne les instruments de leur service avec la verge du berger, avec l'anneau d'alliance avec Dieu, etc. Tout ça, ils doivent d'abord la prostration, dire voilà, j'abandonne tout ce que je suis devant Dieu et aussi devant les autorités. Est-ce qu'on doit être comme ça finalement, alors sans plus de personnalité? Et j'ai été réveillé une nuit avec cette question, mais en fait, quelle est la différence avec ces mots qui s'opposent radicalement entre l'arrogance et la foi, qui sont pourtant si proches? Parce que c'est vrai qu'on aime avoir des frères et sœurs qui ont l'onction, qui ont la puissance, qui ont l'autorité, qui arrivent à toujours être joyeux, à proclamer la grâce de Dieu, à guérir les malades, prêcher l'évangile dans la rue, plein de foi, plein d'ailes. On aime ça quand même, ça nous fait du bien, et puis on a envie de s'y coller, et puis c'est juste. Alors quelle est la limite? L'esprit d'audace et de foi, nous le voulons. Amen. On doit pouvoir vouloir, désirer, quel que soit notre caractère. On a des caractères plus introvertis, extravertis, et les gens qui sont plus revendiqués que d'autres. Mais je pense que tous, même le plus effacé, le plus humble, le plus introverti, il est juste que nous ayons tous ce désir profond d'une vie d'audace et de foi, de proclamation. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme. Et même, je dirais que c'est un critère de saine humilité que de vouloir ça. Même si je ne sais pas ou j'ose pas aller, moi, dans la rue, au porte-à-porte, hein, selon notre caractère, on a plus de peine avec ça. Même ces personnages, je crois qu'on doit avoir dans notre cœur ce désir, cette soif d'une vie d'audace et de foi. Mais c'est justement l'inverse de l'arrogance. C'est de dire, je suis faible, je ne sais pas, mais Seigneur, saisis-toi de moi. Seigneur, fais de moi ton messager. Que ma parole ne soit pas juste une parole humaine. Que mon geste ne soit pas juste un geste humain. Que ma prière ne soit pas juste un acte religieux. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Moi, je ne peux pas faire que ma prière, ma proclamation de foi soit plus qu'une proclamation que des paroles. C'est seulement le Saint-Esprit. C'est seulement la présence de Dieu lui-même qui peut faire une différence. J'aimerais prendre avec vous un texte dans Sophonie 3. Je crois que je l'ai noté là. Sophonie 3, ceux qui veulent ouvrir vos Bibles, Sophonie 3, 9 à 17. Qui nous montre, je pense bien, d'avoir rien d'orgueil, rien d'arrogance, mais d'avoir vraiment comme une attitude de foi. Sophonie 3, 9 à 17. Alors, je donnerai au peuple, c'est une promesse de Dieu, des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. On pourrait s'arrêter là, et ça confirmerait que Dieu va séparer au milieu de nous, on parle souvent de la séparation, du jugement dernier, hein, les bons, les méchants, ils sont bien perdus. Là non, c'est au milieu de son peuple, il veut donner des lèvres pures, il va sauver et perdre une partie, ils vont les servir d'un commun accord et une séparation pour purifier ce peuple. C'est d'un côté ceux qui triomphaient avec arrogance, qui s'enorgueillissaient, ils sont de côté, il veut les enlever.
et il va rassembler pour lui un peuple humble qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. Donc, une grève, ça, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas la foi non plus, c'est vraiment l'humilité. Mais il y a une suite à ce verset. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Il va nous purifier, c'est toujours comme le début, purifier les lèvres. Ils paîtront, ils se reposeront, personne ne les troublera. Une protection quand on est caché en Dieu, loin de l'arrogance. Et la suite. Mais pousse des cris de joie alors, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Combien de fois on a cité ce texte qu'on aime, l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il faut lire le contexte. C'est dans le contexte qu'il sépare du milieu de son peuple, pas les méchants et les bons, les perdus et les trucs, mais dans son peuple, il sépare, il ôte les arrogants. Il veut faire une œuvre de purifier les lèvres. Il veut faire une œuvre parmi nous, ici, maintenant. Il passe avec son épée dans nos vies, si on le veut, avec sa douceur et sa force, sa vérité, si tu le veux, si tu lui le demandes, et il va séparer en nous, qu'il ne mette personne entièrement de côté de nous, parce qu'on est d'accord qu'il le fasse en nous, donc on ne va pas être de côté, mais il va le faire en nous, il va séparer ce qui n'est pas des lèvres pures, il va séparer ce qui est de l'arrogance, il va séparer ce qui est de l'orgueil, il ne le veut pas dans son peuple humble et petit, dépendant de lui, dans la confiance, dans le repos, et éloigné des ennemis. Et ce peuple-là, si on accepte cette séparation de l'orgueil et de l'arrogance, si on accepte d'être humble et petit dans sa main en confiance, il éloigne nos ennemis. Je n'ai pas à m'inquiéter de la politique, je n'ai pas à m'inquiéter des grands philosophes ou d'où le monde va aller emmener qui que ce soit, etc. Je suis caché en Dieu. Et là, avec des cris de joie, je peux triompher. On pourrait dire quelle arrogance de triompher. Là, je peux triompher. Je peux pousser des cris de joie. Que mes mains ne s'affaiblissent pas. Je ne suis pas une limace, je ne suis pas un pauvre petit chrétien escargot qui attend la fin du monde. Je triomphe. Mais je triomphe doucement, vous voyez ce que je veux dire? Je triomphe pas, je ne joue pas à gonfler, mais je triomphe en Christ. Vous comprenez la différence? Je triomphe, je suis caché en lui. Et la joie vient, et la joie monte, comme une douce espérance qui me fait rencontrer l'autre, que je vois comme supérieur à moi-même. Vous voyez la différence de cœur? C'est très proche de l'arrogance, de la proclamation. Et c'est complètement différent et autre chose. Tu n'as plus de malheur à éprouver, tes péchés sont pardonnés, tu es en repos. Mais que tes mains, alors, ne s'affaiblissent pas. Vas-y. Même si tu es toute petite, même si tu ne sais pas, même si tu ne comprends pas toute la théologie, vas-y. Parce que Dieu te fortifie. Il est ton héros. Tu n'es pas, contrairement, excusez, à plein de pubs sur des séminaires, tu es le héros. Il est le héros et tu es caché en lui. Ça change tout. Un dernier avertissement sur, avant de terminer, de conclure, qui est arrogant? Bien, la réponse est très simple, elle est fausse, ce sont les autres. Qui est arrogant? Qui est orgueilleux? Mais les autres, voyons, moi pas quand même. Quand même. Ah oui, je déteste les orgueilleux, j'aime pas les gens gonflés. Mais moi, non. Et cette réponse est fausse. Deux textes bibliques que j'aimerais vous laisser avant de conclure nous y avertissent. Tite 1, 7 à 8. Tite 1, 7 à 8. Il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Et là, vous savez qu'il y a toute une liste qu'on aime bien lire quand on nomme des anciens. Hein. Ni à donner au vin, ni violent, ni porter au gain, hospitalier, ami des gens modérés. Il y a toute une longue liste. J'entends rarement une prédication sur la première exigence notée, qu'il ne soit pas arrogant. Premier critère pour l'évêque, l'ancien, le surveillant, le ministère dans l'Église. Alors on dit qu'il faut qu'il soit marié d'une seule femme, ça sort pas si ça marche. élever ses enfants correctement, on est fois le culpabiliser un peu, voilà. Mais la première chose, qu'il soit rempli de foi, de force, hein, qu'il soit un triomphateur, on a vu avec Sophonie, pas un mou. Il faut qu'on soit enthousiaste. Comment on va enthousiaster les gens si on n'est pas enthousiaste nous-mêmes? Mais qu'il ne soit pas arrogant, qu'il ne soit pas arrivé, qu'il ne croit pas qu'il y ait chaque ministère, chaque équipier, qu'il ne soit pas arrogant. 2 Chroniques 32-25, le grand roi Ézéchias, dont il est dit, sauf erreur si je ne me trompe pas, je cite de mémoire, mais une phrase du genre, qu'il n'y ait personne qui a su faire confiance dans l'Éternel comme Ézéchias, un bon roi. Mais Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu de l'Éternel, car son cœur devint arrogant, et l'indignation de l'Éternel fut ainsi sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Conséquence d'un homme pourtant qui avait su placer sa confiance en Dieu à la fin de sa vie, avec l'amertume, vous savez, hein, la vieillesse, les difficultés, les je sais, oui. Alors c'est 2 Chroniques 32-25. 2 Chroniques 32-25. Mais Ézéchias, qui avait su faire confiance à l'Éternel, qui avait vécu des grandes choses, eh bien, il n'a pas accueilli ses bienfaits de Dieu et son cœur a laissé place à l'arrogance, à la supériorité. Il ne faut pas que l'évêque Ézéchias s'est fait piéger et que le Seigneur vraiment nous fasse grâce et nous montre. Ne croyez pas que c'est les autres, ne croyons pas que c'est les autres. Ne regardons pas tel ou tel arrogant criant, je dirais. Mais ces petites arrogances, je sais, je n'ai pas besoin des autres, je sais mieux que l'autre, j'ai la réponse, il n'y a qu'à faire ci, il faut juste prier pour les maïs, il faut y ester. Non, n'abandonnons pas nos assemblées, venons avec les pasteurs, les ministères, les équipiers dans nos rencontres pour nous former, pour apprendre humblement la vie d'église. Cachons-nous en Jésus-Christ et triomphons parce qu'il est notre héros. Tressaille de joie, réseau CP Jura-Bresse. Tressaille de joie, Mâcon, Morée, Deul, Mouchard, Lens. Tressaille de joie parce qu'il est ton héros. Amen. On va se lever et on va prier. Seigneur, fais cela en nous. Levons-nous et prenons un temps de silence devant le Seigneur pour nous examiner nous-mêmes, pour qu'il puisse dénoncer en nous l'arrogance, l'orgueil bien caché, bien tapis dans des petits coins, bien vernis même évangélique. Ah oui, j'oubliais une chose importante. Ce qui nous guette comme famille dans le corps de Christ évangélique, c'est il y a les catholiques, il y a les réformés, etc., on aime critiquer, etc. Mais regardons chez nous, l'arrogance, il y a une arrogance évangélique, propre au monde évangélique, on doit la connaître. C'est qu'on se croit les premiers. On se croit qu'enfin, Dieu a attendu 2000 ans pour que vienne le monde évangélique, ou 1500 ans, pour que vienne la réforme, pour que viennent les évangéliques, le pentecôtisme, etc., pour les dons. Il y a eu ces dons de l'esprit, ces manifestations depuis les pères de l'Église. Ils ont fait de la théologie avant nous, ils n'avaient pas rien compris, Dieu n'a pas attendu le monde évangélique. Et ça, c'est une arrogance évangélique, de croire qu'on est les justes, qu'on est les vrais, etc. Vous pouvez adorer une statue, une icône, avec un truc dévoyé, plein de démons et d'orgueil, vous le pouvez faire d'un cœur droit et d'un cœur sincère. Pas d'adorer la statue, mais d'adorer Dieu au travers d'un culte qui est un peu différent d'une autre qu'on n'a pas l'habitude. Dieu regarde au cœur. Donc prenons-en pour notre grade et dire, Seigneur, ce qui a de l'orgueil, ce qui est de la supériorité, ce qui est de faux, je ne regarde pas aux autres, mais en moi, en nous, comme réseau, comme évangélique, comme protestant, nous allons nous humilier, nous allons demander pardon à Dieu pour ça, qu'il travaille ces choses en nous et qu'il nous rende humbles, dépendants de lui et dans la bonne communion des frères et sœurs. Amen. Prions. Laissons le Seigneur travailler nos cœurs. Que chacun puisse faire cette prière intérieure pour demander au Seigneur d'agir. Merci de venir avec ta douceur, avec ton esprit pour extirper toutes ces racines qui nous conduisent sur une voie de perte, de chute, de mort, loin de toi, même quand c'est couvert de vernis religieux ou pentecôtiste, Seigneur. Donne-nous d'être sages, c'est-à-dire dépendants de toi, cachés en toi, à prendre jour après jour des frères et sœurs de l'Église et de toi, ensemble, ton chemin. Nous voulons triompher dans ce monde pour apporter la lumière, la vie, le sel qui en a tant besoin ce monde. Forme-nous dans ta main pour aider héros de justice, pour aider des gens qui triomphent avec toi, en toi, par toi, pour toi. Que nos mains ne s'affaiblissent pas, Seigneur, je te prie pour nos mains, qu'elles ne s'affaiblissent pas dans ces temps particuliers, que notre bouche ne s'affaiblisse pas, que notre cœur ne s'affaiblisse pas, que notre esprit ne s'affaiblisse pas, par ta grâce. Fais de nous un peuple qui peut se réjouir et triompher. Pousse des cris de joie, peuple de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci de nous aligner à ta parole. Merci de nous aligner aussi les uns avec les autres pour être cette communauté, cette église, cette épouse qui se prépare et qui témoigne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.